Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier mes collègues Anne Staquet et Pierre Gillis de m'avoir invité à participer à ce cycle sur l'épistémologie. Et alors ce soir, comme vous avez vu, là, je vais vous parler de la philosophie des sciences de Thomas Kuhn. Alors Thomas Kuhn, c'est probablement le philosophe des sciences le plus important et le plus influent, mais aussi sans doute le moins bien compris du XXe siècle. Donc Thomas Kuhn, comme vous voyez là, c'est sa photo bien entendu, il est né en 1922, il est décédé en 1996, donc il traverse une bonne partie là, du XXe siècle. Il a été formé en physique à Harvard, c'était un étudiant extrêmement brillant. Il a donné des cours de physique, mais on lui a demandé de donner des cours d'introduction aux sciences dans des facultés de sciences humaines. Et alors, il s'est intéressé à l'histoire des sciences, Et donc, il a fort étudié l'histoire des sciences. Il a lu Aristote, par exemple. Après tout, Aristote, il a étudié la biologie. Hein, on dirait aujourd'hui la biologie, même si le terme de biologie remonte à Lamarck. C'est lui qui a introduit le terme de biologie. Mais 90% du corpus aristotélicien qui nous est parvenu sont des écrits biologiques ou qui ressortissent au domaine des êtres vivants. Donc il étudiait Aristote, il étudiait beaucoup l'astronomie, on y reviendra, Ptolémée, donc Alexandrie, deuxième siècle après Jésus-Christ, Copernic, donc l'astronomie, la révolution astronomique au XVIe siècle, et il a aussi beaucoup travaillé sur la mécanique quantique, l'histoire de la mécanique quantique. Il a publié également un livre sur l'histoire de la mécanique quantique. Donc il part de la physique et de l'histoire des sciences, principalement la physique, pas tellement la biologie, même si j'ai parlé d'Aristote. Ce sont les exemples tirés de la physique qui illustrent, qui émaillent surtout ses écrits. Alors donc, Kuhn, évidemment, il est né en 1922, c'est un moment où le cercle de Vienne, les positivistes logiques ou les empiristes logiques commencent à fleurir à Vienne et on vit une vision de la science et du progrès scientifique qui est essentiellement cumulatif. C'est-à-dire que la science progresse par accumulation de résultats, aussi bien au niveau empirique, au niveau des observations, des résultats de mesure, qu'au niveau théorique, au niveau des lois. Donc, la science peut être comparée, l'évolution de la science peut être comparée à un flux qui grossit comme ça sans cesse, de manière continue, sans rupture, Et Kuhn nous dit et nous montre qu'un survol même rapide de l'histoire des sciences ne donne pas cette image de l'évolution des sciences telle que les philosophes empiristes du cercle de Vienne nous la présentent. Au contraire, il y a des épisodes de changement brusque, hein, des épisodes de rupture, des révolutions, les fameuses révolutions hein, scientifiques. Et donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais il faut bien dire que pour Kuhn, et c'est ça sans doute un des points, on y reviendra, sur lequel il a été le plus mal compris, et dont il s'est toujours d'ailleurs défendu de cette interprétation, c'est que pour Kuhn, il y a un progrès scientifique. Il y a un progrès. Il y a un progrès à travers les révolutions. Et donc il s'agit de comprendre le progrès à travers ces révolutions. Qu'est-ce qui caractérise la science comme activité d'abord, comme pratique, eh bien c'est une activité progressive et qui, au contraire d'autres activités humaines, progresse à travers les révolutions, à travers des épisodes de rupture profonde. Et ces changements révolutionnaires hein, ne sont pas, pour Kuhn, irrationnels. Il y a une certaine rationalité, mais cette rationalité n'est pas réductible, n'est pas, on ne peut pas la résumer à l'application de règles méthodologiques ou de règles logiques. Il s'agit d'une rationalité pratique, hein, comme on va le voir. Bien, après cette rapide présentation, on va entrer maintenant dans plus de détails. D'abord le plan, hein, le menu. Tout d'abord, après une perspective générale, je parlerai des paradigmes et des révolutions. Il faudra définir ce terme de paradigme qui a fait fortune. Tout le monde parle de paradigme aujourd'hui dans le sens évidemment extrêmement divers et très rarement dans le sens kuhnien. Rarement dans le sens que Kuhn lui-même a donné à ce mot. On parlera des anomalies, j'expliquerai ce que ce serait. L'incommensurabilité, qu'est-ce que ça veut dire? entre les théories paradigmes et finalement la question de la rationalité du progrès scientifique. Bien, alors la perspective générale, c'est... Mon exposé sera basé principalement ou presque exclusivement sur son livre majeur, The Structure of Scientific Revolutions, la structure des révolutions scientifiques, qui a été publié d'abord en 1962. Et puis, il y a eu une seconde édition avec une postface très importante de Kuhn en 1969. Et comme je l'ai dit, comme je viens de le dire, dans ce livre, donc la structure des révolutions scientifiques, c'est un livre qui a eu un succès fou. On a vendu plus d'un million d'exemplaires, hein, et ça continue. C'est vraiment un blockbuster, hein, comme on dit aux États-Unis. Donc c'est vraiment un succès de librairie extraordinaire. C'était traduit dans, je crois, 17 langues. Il y a de nouvelles traductions qui paraissent régulièrement. Donc, il prend plus comme objet d'analyse les théories scientifiques. Les théories scientifiques, peut-être certains d'entre vous, enfin tout le monde parmi vous, j'imagine, a suivi des cours de sciences à l'école. Et alors, on présente les théories. Alors, les théories, bon, il y a des formules mathématiques, et puis on montre que ces formules mathématiques correspondent à des mesures que l'on fait, des choses de ce genre. OK. Ça, c'est évidemment un peu grossier. Mais les manuels comme tels, évidemment, présentent les théories scientifiques de façon statique. Hein. Ça a peut-être changé maintenant. Hein. On fait plus référence dans les nouveaux manuels à l'histoire des sciences, mais dans le temps, hein, quand j'étais à l'école, comme beaucoup d'entre vous, eh bien, c'était présenté de façon statique. Et les théories. Et les positivistes logiques, les empiristes, examinaient les théories, c'est-à-dire des ensembles d'énoncés, hein, de phrases, de propositions formulées mathématiquement, qui s'articulaient de façon logique, un peu comme la géométrie d'Euclide. Newton, d'ailleurs, présente sa théorie dans les Principia Mathematica de manière axiomatique. Donc les théories, pour les positivistes logiques, c'est des systèmes de propositions, probablement, hein, qui s'articulent logiquement. Alors Kuhn dit non. Si on veut vraiment comprendre la science, il faut regarder ce que les scientifiques font, hein, ce qu'ils leur pratique, leur activité, et leur activité, pas seulement maintenant, hein, ou bien pendant 10 ou 20 ans, mais sur des longues périodes de l'histoire. Donc comprendre ce que c'est que la science, bon, c'est aussi comprendre les théories, là on y reviendra, mais c'est surtout comprendre la pratique scientifique, l'activité. Alors qu'est-ce que c'est que l'activité scientifique, essentiellement? C'est une activité de résolution de problèmes, hein, a puzzle solving activity. Donc les scientifiques essayent de résoudre des problèmes théoriques ou empiriques, surtout des problèmes empiriques, c'est-à-dire concernant les observations, expliquer pourquoi on observe telle chose à tel moment avec tel appareil, donc expliquer mathématiquement, hein, en général, ce que l'on peut observer avec, à l'aide en général d'appareils de mesure. Et donc cette activité de résolution de problèmes est caractéristique de l'activité scientifique. Bien, alors évidemment, on dira, mais les juristes... ou comme disait Feyerabend, dont on parlera la fois prochaine, les gens qui essayent de percer des coffres forts, là, des voleurs, ou des, ils essayent aussi de résoudre des problèmes. Hein. Le problème, c'est d'ouvrir le coffre. Hein. Donc il faudra être un peu plus précis. Hein. Donc là, il y a beaucoup d'activités humaines qui peuvent être considérées comme étant des activités de résolution de problèmes. Donc les problèmes scientifiques ont une spécificité par rapport à d'autres problèmes auxquels on peut être confronté dans la vie, dans la pratique. Mais en tout cas, essentiellement, la pratique scientifique est une activité de résolution de problèmes à propos de la nature et aussi la nature humaine. Donc comprendre ce qu'est la science, c'est comprendre ce qui distingue la pratique scientifique des autres activités humaines. Okay ? Et évidemment, la pratique scientifique... comme toutes les autres pratiques et toutes les activités humaines, est historiquement située, bien, à un moment du temps, dans une certaine culture, et il y a des facteurs politiques, religieux, économiques qui influencent, hein, la pratique scientifique, mais qui ne déterminent pas, pour Kuhn, contrairement à ce que certains ont voulu dire. En fait, Kuhn, au début en tout cas, n'a pas été très bien reçu. Parmi les philosophes d'abord, hein, bon, par les empiristes logiques, mais aussi par Karl Popper, par la pensée philosophique dominante dans les années 60, Kuhn était très mal reçu. Il a reçu comme ça des tas de critiques. Il était très mal reçu aussi parmi les praticiens des sciences dures, hein, la physique ou la biologie. Par contre, les sciences humaines l'ont accueilli comme une espèce de prophète, voire de grand prêtre, en disant « Ah, ben voilà quelqu'un qui comprend qu'au fond, la science ou la pratique scientifique n'est pas aussi une activité aussi automatique, aussi logique, hein, aussi rationnelle au sens purement mécanique d'application de mécanismes logiques, que les choses sont plus compliquées que cela, que la science et la pratique scientifique est fortement influencée par le contexte dans lequel on vit. » Et donc, voilà, c'est pour ça que dans les sciences humaines, finalement, Kuhn a été très bien accueilli, mais aussi mal interprété. Maintenant, les choses ont changé. Il y a, bien entendu, toute une série de gens, y compris dans les sciences dures, et les philosophes des sciences qui s'intéressent encore aujourd'hui à Kuhn. Il y a toujours une littérature secondaire qui continue à croître. Bien. Donc, pour comprendre la science, comme je l'ai dit, il s'agit de saisir la manière particulière dont s'effectue le changement dans les sciences, c'est-à-dire le processus par lequel une nouvelle théorie et une nouvelle manière de pratiquer la science est acceptée. Ce que veut dire le progrès scientifique. Et donc, il faut étudier pour comprendre, comme je l'ai dit, mais je répète parce que c'est essentiel, il est impératif pour lui d'étudier l'histoire des sciences. Considérer une étude qui était considérée comme superflue par les empiristes logiques et les positivistes logiques du cercle de Vienne au début du XXe siècle. Il suffisait d'étudier la science telle qu'elle était acceptée à ce moment-là, au début du XXe siècle, la mécanique quantique, typiquement, la théorie de l'évolution de Darwin, etc., peu importe l'évolution des sciences. Et donc, si on regarde l'histoire des sciences, elle nous apprend que celle-ci, cette histoire, est ponctuée de changements abrupts au cours desquels la pratique scientifique est radicalement bouleversée, comme lors de la révolution copernicienne. Et Kuhn, effectivement, a écrit son premier livre en 1957. Je vous disais qu'il a étudié l'astronomie. La révolution copernicienne, comme vous savez, en gros, c'est mettre la Terre en mouvement. Mettre la Terre en mouvement. Donc, immobile qu'elle était au centre de la sphère des étoiles, la sphère tourne autour du centre du monde, pour Copernic, qui coïncide pas exactement avec la position du Soleil, parce que le Soleil, lui, se trouve au centre de la sphère des étoiles pour Copernic. C'est un détail, mais qui a quand même son importance. Et donc la vision du monde, parce qu'il y avait toute une série de choses qui dépendaient de cette immobilité de la Terre, la vision du monde, la manière de concevoir l'ensemble du cosmos s'en est trouvée bouleversée. Donc Kuhn a étudié la révolution copernicienne, donc le passage du système géocentrique au système héliocentrique, et ça l'a fortement marqué, et il a pu constater que d'autres épisodes de l'histoire des sciences, sur lesquels nous reviendrons, étaient semblables, sous certains aspects, à cette révolution copernicienne. Donc, pour Kuhn, la thèse positiviste, des empiristes logiques ou des néo-positivistes, j'utilise ce terme comme synonyme, comme quoi la science progresse, grossit par accumulation continue, sans heure, continue, aussi bien au niveau des observations et des mesures au niveau empirique qu'au niveau théorique, qu'au niveau des lois mathématiques, eh bien cette thèse est réfutée par les données, par les constatations que l'on peut tirer de l'examen de l'histoire des sciences. Et donc, Kuhn adopte une approche qui est très fréquente aujourd'hui en philosophie des sciences, qui est une approche qu'on qualifie de naturaliste, c'est-à-dire que, au fond, la philosophie, en tout cas la philosophie des sciences, ou toute la philosophie, je ne suis pas d'accord avec cette thèse-là, mais je ne vais pas entrer dans cette discussion, en tout cas pour Kuhn, la philosophie, et la philosophie des sciences qu'il défend, est une philosophie des sciences qui ne se fait pas en chambre, c'est pas le philosophe qui est penseur, qui ferme les yeux et est en train de réfléchir. Non, le philosophe, c'est quelqu'un qui regarde le monde, qui regarde les faits historiques et qui, à partir de ces faits historiques, essaye de comprendre ce qu'est la science. Donc, l'approche naturaliste, c'est une approche, on dit en philosophie, a posteriori. A posteriori, c'est-à-dire qu'on regarde les faits, ici les faits historiques, et à partir de ces faits, on essaye de dégager des caractéristiques générales, une structure, à le titre du livre, une structure de ces faits historiques, et en particulier, structure générale des faits révolutionnaires, hein, des ruptures dans l'évolution des sciences. Ok. Donc, une approche naturaliste des questions épistémologiques à partir des faits historiques et d'une étude sur le terrain de la pratique des communautés scientifiques. Les scientifiques travaillent en groupe, hein, ils ne travaillent pas de façon solitaire en général, hein, même dans le temps, hein, pas seulement maintenant où il faut des investissements importants pour avoir des labos et tout ça, non, même jadis, les scientifiques travaillaient, ils formaient des écoles, Aristote a fondé le lycée, il y a un groupe de philosophes, travaillaient ensemble. Donc Kuhn part de l'histoire des sciences pour en dégager les caractéristiques spécifiques du changement scientifique, et c'est la structure de ce changement qui nous donne la clé de la compréhension de la pratique scientifique. Et donc, Kuhn reconnaît que les positivistes n'ont pas complètement tort. C'est vrai qu'il y a des périodes, disons, calmes, où il n'y a pas de révolution. Ce qu'il va appeler la science normale, on verra ce que c'est. Il y a des périodes où les scientifiques travaillent de manière telle qu'il y a une accumulation de problèmes résolus. Hein, donc la science est une activité de résolution de problèmes. Donc les problèmes résolus, ben, il y a de plus en plus de problèmes résolus, hein, résolus de mieux en mieux. Les théories, paradigmes acceptés s'appliquent à des nombres de plus en plus grands phénomènes. Il y a une accumulation de lois mathématiques, etc. Donc il y a des épisodes dans l'histoire, hein, et c'est d'ailleurs la majorité du temps. La majorité du temps, c'est la science travaille de façon continue, sans rupture. Les révolutions coperniciennes, ou la révolution einsteinienne, ou la révolution quantique, sont des épisodes relativement rares, hein, dans l'histoire de l'humanité. Mais il y a des moments, hein, où il y a des épisodes de changement brusque et discontinu, les fameuses révolutions scientifiques. Alors, le changement cumulatif théorique et empirique est relativement facile à comprendre. On comprend intuitivement, en tout cas, que le changement cumulatif, c'est quantitatif. Hein, quantitatif. Donc le nombre de problèmes résolus augmente, le nombre de lois augmente, le champ des phénomènes expliqués s'élargit. Hein, on comprend intuitivement ce que ça veut dire. Mais les épisodes révolutionnaires sont beaucoup plus mystérieux, opaques. Hein, c'est ça qui constitue la difficulté pour Kuhn, c'est de comprendre, au fond, qu'est-ce qui se passe lors d'une révolution scientifique et qu'est-ce que c'est que le progrès scientifique à travers les révolutions. Parce que c'est ça qui, pour lui, caractérise l'activité scientifique comme telle par rapport à d'autres activités humaines. Il fait une comparaison avec la peinture. Bon, c'est peut-être un peu simplifié, mais il dit, par exemple, du temps de Léonard de Vinci, il y avait un progrès. Il s'agissait de représenter, en un certain sens, la nature, hein, et on voit qu'il y a du progrès pendant une certaine période. Et puis alors, évidemment, à un moment donné, les gens font d'autres choses. Typiquement, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, ben, la représentation en peinture, ça n'a plus beaucoup de sens. Mais est-ce qu'on peut parler de progrès en peinture, hein? Est-ce que Paul Klee, est-ce que Malevitch, ils peignent mieux que Léonard de Vinci ou que même Link, enfin bon. Mais en science, là, il va falloir trouver une structure, hein, donc une explicitation de ce qui se passe à travers les révolutions. Donc, voilà, c'est ce qui explique évidemment le titre que Kuhn a donné à son ouvrage principal, « La structure des révolutions scientifiques ». Bon, deuxième partie, paradigme et révolution. Alors, on va un peu citer Kuhn. Ah, ça, c'est un travail sérieux, académique. Hein. On fait des citations, entre guillemets, là, et on essaie de ne pas se tromper dans les citations. Donc, les révolutions, c'est tiré, évidemment, les citations sont toutes tirées de la structure des révolutions scientifiques. Les révolutions scientifiques sont ces épisodes de développement non cumulatifs, hein, au cours desquels un ancien paradigme, hein, est remplacé en totalité ou en partie, par un nouveau paradigme incompatible avec le premier. Donc logiquement incompatible. On ne peut pas on ne peut pas adhérer, un scientifique dans sa pratique ne peut pas adhérer à la fois au géocentrisme et à l'héliocentrisme. Il ne peut pas dire qu'à la fois la Terre est immobile et la Terre est en mouvement. Ce n'est pas possible, d'accord ? C'est incompatible. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un paradigme ? Alors, souvent, bon, Margaret Masterman, une philosophe en 1970, il y a eu un débat fameux à Londres avec Popper, enfin, toute une série de gens importants, et Kuhn, Masterman, et donc, on lui a dit, ah ben écoutez, votre terme de paradigme, il n'est pas clairement défini. Et Margaret Masterman s'est amusée à distinguer 21 significations hein, différentes du terme paradigme dans les écrits de Kuhn. Bon, alors ça c'est un peu gênant, mais c'est si vous étudiez les grands philosophes, là, ben, ils utilisent, vous savez, transcendantal chez Kant, l'esprit absolu chez Hegel, la dialectique. La substance chez Spinoza, ben, j'ai aussi quand même des variations. Hein. Donc, les termes centraux des philosophes ne sont pas toujours, ben, ou presque jamais, définis avec une précision mathématique. Hein. Donc, le terme paradigme, ce n'est pas vraiment une objection majeure hein, qui ne soit pas clairement définie, hein, qu'il n'y ait pas une définition, comme dans le dictionnaire Larousse, mais que c'est un terme qui a une certaine fécondité et qui permet de comprendre une multiplicité de phénomènes historiques à propos de la science. Enfin, 21 significations, c'est un peu beaucoup quand même. Et donc, Kuhn a bien entendu le message, et dans sa postface de 1969, il distingue deux termes, deux sens hein, centraux du terme paradigme. D'une part, le terme d'exemplaire, exemplar en anglais, et c'est une solution exemplaire. Donc, la science est une activité de solution de problèmes. Okay. Donc, les scientifiques essayent de résoudre des problèmes. Parfois, ils réussissent, donc ils trouvent une solution. Et cette solution, c'est une bonne solution, considérée comme bonne solution. C'est un bon exemple à suivre dans la pratique. Hein. D'ailleurs, dans les cours de sciences, le professeur dit, voilà, hein, c'est comme ça qu'il faut faire une expérience, c'est comme ça qu'il faut faire le calcul, c'est comme ça qu'il faut faire un exercice. Hein, et donc, on prie les élèves d'imiter, hein, c'est faites comme moi. Quoi. Le professeur dit, faites comme moi. C'est comme ça qu'on apprend, hein, au départ, faire de la science. Donc, une solution exemplaire, c'est une bonne solution de problème. Et puis alors, il y a un terme plus large, un sens plus large de paradigme, c'est le terme de matrice disciplinaire, et je vais expliquer ce que c'est. Bon, alors, ça c'est une première chose, donc Kuhn dans sa postface distingue les exemplaires des matrices disciplinaires, et Margaret Masterman, qui a distingué la 21 sens, hein, elle essaye de regrouper aussi ses sens en plusieurs catégories. Et donc, finalement, Kuhn prend en compte les critiques de Masterman et distingue, comme elle, trois catégories du sens du mot paradigme, un sens épistémologique, un sens métaphysique et un sens sociologique. Bien. Alors, le premier sens, c'est le paradigme au sens de solution exemplaire. Et c'est le sens le plus fondamental. C'est pas moi qui le dis, c'est Kuhn lui-même qui l'a précisé dans des écrits plus tardifs. C'est vraiment la solution d'un problème, c'est ça le sens fondamental, racine du mot paradigme. C'est ça, paradigme. Paradigme, c'est un exemple à suivre. Un exemplaire, c'est un problème déjà résolu, qui est un exemple à suivre par les scientifiques pour résoudre de nouveaux problèmes. Citation, les exemplaires sont les solutions de problèmes que les étudiants rencontrent dès le début de leur éducation scientifique, que ce soit dans les laboratoires, aux examens ou à la fin des chapitres dans les manuels scientifiques. Okay. Par exemple, en physique, voilà, vous avez le pendule simple. Pendule simple, c'est-à-dire une boule dure suspendue à un fil inextensible et sans poids. Hein. On considère que le fil est inextensible et sans poids, ce qu'on appelle une idéalisation, qui se déplace dans un plan, qui ne fait pas des trucs comme ça, dans un plan. Alors, le prof, hein, voilà, il écrit l'équation. Bon, en tout cas, à l'université, on écrit l'équation différentielle, on la résout, on trouve la loi, par exemple, que les périodes du pendule sont d'autant plus grandes que le fil est long, hein, des choses de ce genre. Et puis, à la fin, on dit, ah, mes petits amis, maintenant, vous allez résoudre le problème du pendule double. C'est-à-dire, le pendule, vous avez un point fixe, une première masse, et puis à cette masse, vous avez une deuxième boule. Okay? Et donc, vous êtes prié maintenant de résoudre en utilisant les méthodes. Hein? Pas si simple que ça, hein, les méthodes. Je ne sais pas si vous avez lu le pendule de Foucault, mais là, il y a une illustration un peu macabre du pendule double. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Okay? Donc, le prof dit, voilà une solution, on a les lois mathématiques, maintenant, débrouillez-vous pour trouver l'équation, la bonne équation, la résoudre et trouver les lois du mouvement du pendule double. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Alors, d'où vient le terme de paradigme? Il dit, Kuhn, dans la structure des révolutions scientifiques, qui s'inspire de la grammaire. Grammaire. Donc, le paradigme, c'est un exemple à suivre. Hein, par exemple, c'est l'exemple qu'il prend, hein, c'est l'exemple qui se trouve dans le livre. Donc, le verbe « amarrer ». Amarrer à l'indicatif présent, hein, c'est amo, amas, amat, etc. Hein. Et puis, exercice, conjuguer maintenant le verbe laborare, travailler, hein, à l'indicatif présent. Alors ça, c'est pas très difficile, c'est laboro, laboras, laborat, etc. Donc ça, c'est facile. Hein. Donc, une fois qu'on a l'exemple dans la grammaire, conjugaison de verbes réguliers en are en latin, eh ben, on peut, si on connaît du moins le paradigme, on peut facilement conjuguer les autres verbes réguliers, hein, en are en latin. OK. Maintenant, en science, les problèmes sont nettement plus intéressants que cela, mais aussi plus difficiles et compliqués, bien entendu. C'est pour ça que la science est plus intéressante, à mon avis, que la grammaire. En physique, donc, la solution, par exemple, comme j'ai dit, de l'explication de la mathématisation du mouvement du pendule simple constitue un exemple à suivre pour expliquer le mouvement du pendule double, du pendule physique. C'est le pendule physique, c'est-à-dire les balanciers des horloges. Hein, donc, vous n'avez pas un fil, vous avez une masse métallique. Du pendule qui se meut dans les trois dimensions, hein, des trucs comme ça, etc. Okay. Donc, le premier sens de paradigme de science épistémologique, c'est une solution, une bonne solution de problème et un exemple à suivre. Maintenant, le paradigme au sens de matrice disciplinaire, est-ce qu'il correspond à ce que Margaret Masterman a appelé le sens métaphysique ou encore métaparadigme? Et donc, une matrice disciplinaire, eh bien, une matrice c'est pris au sens mathématique, hein, c'est-à-dire une matrice au sens mathématique, c'est un tableau de nombres. Par exemple, une matrice à deux dimensions, vous avez, disons, des colonnes et des lignes, donc vous avez des nombres qui sont organisés, hein, de manière précise. Donc une matrice, c'est un ensemble d'éléments organisés, voilà, ici. Et une matrice disciplinaire, ben, disciplinaire parce que cette matrice disciplinaire guide, dirige la pratique de praticiens, de scientifiques qui pratiquent une certaine discipline. Par exemple, l'astronomie, hein, ou la physique de l'état solide, ou des choses de ce genre. Ok, ça va? Donc une matrice disciplinaire est composée d'éléments ordonnés, comme dans une matrice mathématique, et de types variés. Alors il y a quatre types d'éléments. Il y a les lois mathématiques en général, hein, les modèles, les valeurs et les exemplaires. Donc les exemplaires, c'est-à-dire les solutions types, donc le sens fondamental épistémologique du mot paradigme, les exemplaires font partie des matrices disciplinaires. Il y a trois autres éléments, mais les exemplaires font partie des matrices disciplinaires. Mais Kuhn insiste, il dit que c'est à partir de ces matrices disciplinaires que les étudiants, hein, à partir de l'étude de ces solutions, que les étudiants apprennent ou saisissent les autres éléments de la matrice, les trois autres éléments. Bon, quels sont-ils? Bon, les lois, les généralisations symboliques, donc les lois mathématiques ou les lois formalisables en principe. Il est clair que dans la solution exemplaire du pendule simple, on utilise des lois mathématiques. Et ce sont des lois, on utilise typiquement la deuxième loi de la dynamique de Newton. La force est proportionnelle à la masse et à l'accélération. Hein. Ça, si vous faites de la mécanique classique, c'est sacré. Vous pouvez pas, si vous faites autre chose, si vous utilisez une autre équation fondamentale dynamique, vous faites plus de la mécanique classique. Vous faites autre chose. Mais en mécanique classique des points, en tout cas, mécanique classique des points, F égale ma, ça, c'est la loi fondamentale. Donc si vous travaillez dans le paradigme au sens de matrice disciplinaire de la mécanique classique, vous ne pouvez pas mettre en question la deuxième loi de Newton. Sinon vous faites autre chose. Bien. Deuxièmement, les parties métaphysiques des paradigmes et que Kuhn appelle des modèles. Bon, ça c'est un sens qui est particulier à Kuhn, parce que le modèle, aujourd'hui, en science, je dis un mot rapide là-dessus, un modèle, c'est en général conçu par les scientifiques comme une représentation, une image, en général mathématique, d'un système dans la nature ou dans le monde des sciences humaines, le monde humain. Donc le modèle ici, non, c'est les modèles, ce sont en fait des conceptions métaphysiques à propos des constituants réels et fondamentaux de la nature, selon la discipline considérée. Par exemple, selon la théorie des gaz, la théorie cinétique des gaz, développée par Maxwell, Boltzmann, etc., eh bien, les gaz, ce sont des petites boules, des molécules, mais qu'on peut considérer en première approximation comme des petites boules, très petites évidemment, mais qui sont en mouvement et qui se cognent. Okay. Ça, c'est le gaz, pour les gens qui travaillent dans le cadre du paradigme de la théorie cinétique des gaz. Okay. Et ça, c'est la réalité. C'est la réalité dont on s'occupe. Donc, le monde des gaz, ici, les gaz, est composé, le monde des gaz, les gaz sont composés de ces petites boules qui sont en agitation thermique, qui se cognent et qui s'entrechoquent perpétuellement. Par exemple, la perspective mécaniciste qui a été développée de façon contemporaine avec la naissance de la science moderne, par Locke, Descartes, Boyle, etc., eh bien, pour tous ces gens, mais c'est vraiment une perspective métaphysique, le monde dans sa totalité et ses parties, ce sont des mécanismes. Qu'est-ce que c'est qu'un mécanisme? Ben, c'est comme une horloge, c'est un ensemble de parties qui ont une forme géométrique et qui se déplacent les unes par rapport aux autres. C'est ça un mécanisme. C'est un ensemble de parties, je répète, qui ont une forme géométrique et qui se déplacent les unes par rapport aux autres. Et le monde, c'est ça. Et les mécaniciens du XVIIe siècle travaillaient tous avec cette croyance philosophique, métaphysique, ontologique, que la réalité, le monde, c'est ça. C'est un ensemble de parties géométriques en mouvement les unes avec la thermodynamique, la mécanique quantique, etc., la théorie des champs et tout ça, ça a un peu changé. Mais, en tout cas, au XVIIe siècle et bonne partie du XVIIIe siècle, c'était comme ça. Donc, l'univers, de même que ses parties, sont des mécanismes, c'est-à-dire des systèmes de corps géométriques en mouvement relatif. Et donc, l'adoption d'un modèle au sens kuhnien exprime l'engagement ontologique de la communauté des praticiens, c'est-à-dire leur croyance sur le type de réalité dont se compose l'univers. Okay? Donc ça, c'est le deuxième ingrédient du paradigme. Hein? Troisième ingrédient, les valeurs. Donc je vous ai dit qu'un exemplaire, c'est une bonne solution, une mauvaise solution, hein? La bonne solution. Alors, une bonne solution, c'est, par exemple, en tout cas aujourd'hui, et c'est que les prédictions empiriques, les prédictions, les prévisions, vous faites de l'astronomie, vous faites une prédiction sur la position de Mars par rapport à telle étoile en 2023, le 3 janvier à minuit, voilà, vous faites une prévision, il y a des coordonnées sphériques, et puis si Mars se trouve à cet endroit-là, effectivement, prévu par la théorie, ben, ça va bien. Sinon, ben, il y a peut-être un problème non résolu. Okay. Donc, une bonne solution d'un problème, c'est une solution qui donne des résultats qui sont précis, qui sont conformes aux observations. D'autre part, les théories doivent permettre la formulation. Pour pouvoir résoudre un problème, c'est très important de bien le formuler. D'accord ? En science, justement, c'est ça probablement un des grands mérites de l'activité scientifique, c'est que dans le cadre d'un paradigme, d'une matrice disciplinaire, il est possible de formuler des problèmes de façon précise et donc d'y apporter une solution convenable, acceptée par la communauté. Et donc, ces solutions doivent être non contradictoires, non contradiction, hein, absence de contradiction interne. C'est ce que dit Kuhn. Hein. Alors, les théories doivent être les plus simples possibles. Les scientifiques, comme tout le monde, sont des gens qui pratiquent la loi du moindre effort, hein, ils ont bien raison. Et donc, il faut des théories simples, plus simples possibles. Bien sûr qu'il y a des théories qui sont très compliquées, hein, mais faut tendre vers la simplicité. Si on a le choix entre plusieurs théories qui sont conformes au phénomène, aux mesures, s'il y en a une qui est plus simple que l'autre, ben on va choisir celle la plus simple. Le critère d'acceptation d'une théorie est en définitive évidemment l'expérience. Et les débats scientifiques ne peuvent pas être tranchés par le recours à une autorité. Et donc ceci met un bémol aux interprétations dont je vous avais parlé tout à l'heure, par les social scientists, hein, qui disaient « Ah ben voilà, hein, c'est au fond le contexte religieux, culturel, économique, politique, dépression, etc., négociation, qui fait en sorte qu'un paradigme est accepté plutôt qu'un autre. » Non, pour Kuhn, la seule autorité, c'est l'expérience. Et ce sont les scientifiques eux-mêmes, sans interférence d'autres autorités politiques, religieuses, économiques, etc., qui décident si la solution est bonne ou pas. Hein. Si le paradigme, lorsqu'il y a des paradigmes en compétition, si un paradigme doit être accepté. Mais Kuhn dit ces valeurs peuvent varier d'une communauté à l'autre. Alors ça, c'est le problème chez Kuhn, dans la structure. C'est qu'il dit des choses, et puis alors après, il dit d'autres choses qui semblent contredire. Même s'il dit qu'il ne faut pas de contradiction, hein, il dit certaines choses, et puis il dit, voilà, mais il dit ces valeurs, ce sont des valeurs qui sont acceptées actuellement. Dans l'histoire des sciences, on voit que ce sont des valeurs qui ont quand même été considérées comme importantes sur de longues périodes, mais pas toujours. Hein. Il y a parfois des exceptions. Et comme il y a plusieurs valeurs, ces valeurs peuvent entrer en conflit les unes avec les autres, hein, et donc il faut arbitrer. Et il n'y a pas de règle mécanique qui va permettre aux scientifiques de dire que lorsqu'il y a une compétition entre paradigmes, hein, on va voir, qui permettent de trancher. Il n'y a pas de règles transparadigmatiques, de règles universelles, partagées par tous, qui permettent de dire, ah ben voilà, ça c'est une meilleure solution que cette autre solution. Et en plus, l'application, la simplicité par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire la simplicité d'une théorie? Et là, il y a beaucoup de littérature en philosophie des sciences qui essaie de déterminer ce que c'est qu'un critère de simplicité. Donc, ces valeurs peuvent varier d'une communauté de scientifiques à une autre, surtout pendant les épisodes révolutionnaires où tout le monde n'est pas d'accord, et de même que leur application contraire. Et enfin, les exemplaires. Donc, les exemplaires, les solutions types. Donc, les quatre ingrédients d'une matrice disciplinaire, pour récapituler, vous avez les généralisations symboliques. Vous avez les parties métaphysiques, c'est-à-dire une ontologie du monde, comme le mécanicisme. Hein. Le monde est composé de mécanismes. Troisièmement, les valeurs. Qu'est-ce qui compte comme une bonne solution? Et puis les exemplaires, qui sont des exemples de bonnes solutions. Et donc, on voit que les ingrédients de la matrice disciplinaire sont subordonnés, induits, déterminés par les exemplaires, parce que l'exemplaire est une bonne solution, et donc l'exemplaire véhicule des valeurs implicites, parfois pas toujours explicites. L'exemplaire véhicule aussi une certaine conception du monde, hein, une ontologie. Ah voilà, le pendule, c'est un point en mouvement, c'est un mécanisme, d'accord ? Et puis on utilise des généralisations symboliques, évidemment des lois. Donc les autres ingrédients de la matrice disciplinaire sont suspendus en quelque sorte aux exemplaires et les étudiants, les apprentis scientifiques acquièrent les autres ingrédients de la matrice disciplinaire par l'étude des exemplaires. Donc le mot, l'exemplaire, la solution type, la bonne solution, c'est vraiment le sens fondamental du mot paradigme pour Kuhn. Ok, alors à côté du sens épistémologique, c'est-à-dire exemplaire, le sens métaphysique, c'est-à-dire matrice disciplinaire, il y a aussi un sens sociologique qui est distingué par Masterman et dont on trouve des échos dans les écrits de Kuhn. Alors, selon le sens sociologique, le paradigme est quelque chose, un X, partagé par une communauté scientifique. Okay. Les scientifiques travaillent, ils essayent de résoudre leurs problèmes et ils le font en étant guidés par un paradigme. Bien. Mais, sans savoir en quoi consiste ce paradigme, sans savoir en quoi consiste la mécanique classique ou la théorie de l'évolution de Darwin ou des choses de ce genre, il doit être possible de déterminer quels sont les membres d'une certaine communauté. Alors les sociologues, comment travaillent-ils? Ça vous savez, ils adorent faire des enquêtes et ils concoquent des questionnaires. Hein, donc il faut faire des questionnaires, ça c'est la partie la plus difficile évidemment de l'enquête, c'est faire un questionnaire qui va vous apprendre vraiment quelque chose et qui ne sera pas trop susceptible de diverses interprétations. Donc, on pourrait en principe faire un questionnaire, interroger des communautés scientifiques et de dire, ben voilà, à quel congrès allez-vous, qui connaissez-vous, dans quel journal publiez-vous, quels sont vos livres de référence, quels sont les auteurs importants, hein, voilà. Et puis après ça, on collecte les résultats et on dit, ben voilà, on peut faire une carte, hein, des groupes, des communautés scientifiques, des chimistes, des physiciens, il y a à l'intérieur des physiciens, les physiciens nucléaires, les physiciens d'état solide, etc. Ok. Mais le problème ici, c'est bon. Alors, la raison pour laquelle Kuhn introduit ce sens sociologique, c'est pour éviter l'objection de circularité suivante. Un paradigme est ce qui est partagé par une communauté de scientifiques, ok. Et une communauté scientifique est un groupe de gens qui adhèrent à un paradigme. Donc, alors on se met dans un cercle. Hein. Donc, la sociologie permettrait empiriquement, puisque Kuhn est un naturaliste, hein, d'expliquer ce que c'est. La sociologie, les études sociologiques permettraient de sortir de cette circularité. Ce problème ne se posait pas pour les positivistes logiques ou les empiristes parce qu'ils avaient une vision a priori de ce que c'est qu'une bonne théorie scientifique. Une vision a priori, c'est-à-dire une théorie scientifique, c'est quelque chose qui a une certaine structure logique et qui est connectée aux observations d'une façon extrêmement précise. Je ne vais pas vous expliquer dans le détail que ça prendrait évidemment un certain temps. Et donc, une théorie scientifique, c'est ce qui correspond à ce que les positivistes disent ce qu'est une théorie scientifique. Pour Kuhn, il dit, moi je ne pars pas d'une idée préconçue de ce que c'est qu'une théorie scientifique ou un paradigme, comme il dit, paradigme-théorie. Et il utilise le terme théorie parfois comme synonyme de paradigme. Je n'ai pas d'idée préconçue, je dois regarder ce que c'est que l'histoire des sciences, et donc il y a des communautés de scientifiques. Et alors comment est-ce qu'ils travaillent? Il faut d'abord que j'identifie ces communautés. Hein, quelles sont ces communautés scientifiques, sciences sociologiques? Alors ici, évidemment, il y a un problème. Cela se peut faire par des questionnaires, comme je l'ai dit, qui contiennent des questions du type quel livre avez-vous lu, avec qui êtes-vous en contact, à quel colloque participez-vous. Mais cette manière de procéder soulève une difficulté. Il semble problématique de formuler des questions de ce genre sans avoir une certaine idée, même vague, de ce que c'est qu'une communauté de scientifiques. Et en quoi cette communauté de scientifiques se distingue d'autres communautés. Paul Feyerabend, avec son ironie mordante qui le caractérise, il dit, vous savez, les clubs de sorciers, les personnes de coffre-fort, prenons les clubs de personnes de coffre-fort, il y a aussi une littérature sur les coffres-forts. Et il y a même des éléments scientifiques là-dedans. Hein. Ils essaient de résoudre des problèmes d'ouverture de coffres, comme je vous ai dit. Est-ce que c'est vraiment une bande de brigands qui essayent de piquer l'argent qui se trouve dans les coffres? Est-ce que c'est une communauté de scientifiques? Bon. On peut quand même émettre quelques doutes à ce sujet. Donc, il faut quand même avoir au départ une certaine idée de ce que c'est qu'une communauté de scientifiques. Et on ne peut pas partir de zéro comme ça en disant le paradigme c'est un X partagé par une communauté de gens. Donc il faut... Bien. Bon, ça c'est un problème interne à la philosophie des sciences de Kuhn. Troisième partie, la science normale. Et donc je vous disais que la plupart du temps, c'est pas qu'il se passe rien, mais la communauté scientifique travaille calmement, tranquillement, tout le monde est d'accord sur la manière de travailler, de résoudre des problèmes. Et à l'intérieur de cette science habituelle, normale, qui s'effectue la plupart du temps, le progrès est cumulatif. Donc lorsqu'un groupe de praticiens travaille dans le cadre d'une matrice disciplinaire acceptée par l'ensemble des membres de la discipline, ils œuvrent dans le cadre de ce que Kuhn appelle la science normale. La science normale est pratiquée par une communauté de scientifiques qui s'est mise d'accord sur, je cite, les réponses fermes à des questions du type suivant. De quelles entités fondamentales le monde est-il composé? Partie métaphysique des matrices disciplinaires. Quelles questions peut-on poser à propos de ces entités? Quelles sont les questions pertinentes? Okay. Donc, si on étudie les pendules et le mouvement du pendule, on ne va pas s'intéresser à sa couleur, s'il est fait de cristal ou de caoutchouc ou des choses de ce genre. Hein. Donc, on considère la masse là comme un point massif. Et quelles sont les techniques employées pour chercher des solutions? Techniques mathématiques ou techniques empiriques? Cependant, les réponses à ces questions ne sont pas toutes formulées de façon explicite. C'est ce qui rend la science intéressante, si ça. Hein. En général, les matrices disciplinaires ne contiennent que des règles méthodologiques explicites, ne contiennent pas, il manque un pas là, les matrices disciplinaires ne contiennent pas de règles méthodologiques explicites applicables à la résolution de nouveaux problèmes. Les scientifiques essaient de résoudre de nouveaux problèmes. Je sais bien que dans les laboratoires de sciences, de physique, je trouvais ça d'ailleurs mortellement ennuyeux à l'époque, hein, on devait refaire les expériences que Galilée avait faites là, avec les billes qui roulent sur des plans inclinés, etc. Ben, on ne va pas trouver quelque chose de nouveau là. Hein. Je sais pas, les lois de mouvement uniformément accéléré, ben, elles sont bien connues. Mais bon, il y a de nouveaux problèmes. Et l'apprentissage de la méthode résulte de l'étude des exemplaires. Bon, ça, on étudie les exemplaires dans les laboratoires. Et à partir de là, ben, il faut s'intéresser à de nouvelles choses et voir si on ne peut pas résoudre ces nouveaux problèmes à l'aide des méthodes éprouvées, hein, mais qui ne sont pas explicitées par des règles méthodologiques, noir sur blanc. Donc c'est un peu de l'apprentissage par imitation, hein, et pas par apprentissage par cœur de règles mécaniques, automatiques, de trucs méthodologiques qu'il suffit d'appliquer sans trop réfléchir. Donc la connaissance de règles méthodologiques, d'ailleurs, n'est pas, tikkun, indispensable à la pratique de la science normale. En plus, la connaissance de ces règles méthodologiques est bien souvent impossible à acquérir. Il suffit de lire quelques philosophes des sciences, d'ailleurs, qui ont essayé de dire qu'est-ce que c'était que la méthode scientifique, hein, ou les méthodes utilisées par les scientifiques pour travailler. Vous verrez qu'il y a pas mal de désaccords entre les philosophes. Donc, découvrir des règles scientifiques. Et d'ailleurs aussi, les scientifiques, quand ils parlent de leur pratique, parfois, ils disent des choses qui sont différentes, même s'ils font partie du même groupe. Mais c'est pas grave, parce que ils travaillent tous finalement de la même façon, en général, dans le cadre de la science normale. Donc, le candidat scientifique assimile les ingrédients de la matrice disciplinaire véhiculés implicitement par les exemplaires. Ainsi, les valeurs de précision, de simplicité, exemplifiées par les solutions types, sont acquises sans qu'il soit nécessaire de les expliciter. Les exemplaires comprennent les équations, le contexte expérimental, la description des appareils de mesure, les grandeurs pertinentes et les instructions sur la mesure, les méthodes de calcul, etc. Et donc, il n'y a pas de règle de correspondance, je ne vais pas expliquer ce que c'est, contre le néo-positiviste. C'est l'exemplaire, c'est par l'exemplaire que les applications des lois, c'est-à-dire des généralisations symboliques, des formules mathématiques, aux observations se fait. Donc l'exemplaire est un tout, hein, qui contient des parties théoriques et des parties empiriques. Dans l'exemplaire, voilà la solution du pendule, mais aussi on vous explique normalement comment mesurer la période, hein, d'oscillation ou la fréquence du pendule. Donc une nouvelle théorie, un nouveau paradigme, hein, est toujours avancée avec des applications exemplaires à un domaine concret de phénomènes naturels. Fin de citation. Ces exemplaires n'épuisent jamais la variété des applications possibles de la théorie et ne peuvent dès lors être codifiés en règles méthodologiques exhaustives. Il peut y avoir des règles. Il y a des règles. Par exemple, si vous avez une théorie qui prédit des résultats de mesure de manière plus précise qu'une autre, ça c'est mieux. Hein? Bon, c'est une règle importante dans l'évolution des sciences. Mais on ne peut formuler toutes les règles. Sinon, on s'interdit toute application du paradigme à des situations nouvelles. Par exemple, la mécanique classique des points de Newton, Newton s'est échiné à expliquer le mouvement des planètes, des satellites aussi, hein, de la Lune, ça a d'ailleurs été assez difficile pour lui, mais un peu plus tard, on a pu aussi expliquer le mouvement des comètes, la fameuse comète de Halley, hein, qui revient, qui suit une orbite elliptique très, très allongée. Donc on peut appliquer les généralisations symboliques, les lois mathématiques à de nouveaux phénomènes en s'efforçant d'imiter les applications réussies, hein, donc les exemplaires déjà réalisés. Donc, la science normale est une pratique basée sur un stock d'exemplaires acceptés par la communauté scientifique. Ses membres partagent les mêmes valeurs, voient le monde de la même façon, c'est-à-dire comme par exemple des mécanismes, le monde est composé de mécanismes, c'est la perspective mécaniciste, parlent le même langage, se comprennent entre eux, et donc ils partagent la même matrice disciplinaire. Ils travaillent à augmenter le nombre et la variété des applications de la théorie, c'est-à-dire à accroître le stock d'exemplaires en résolvant des problèmes empiriques et théoriques. Et donc, la science normale est une entreprise cumulative et continue, conforme à la vision empiriste, positiviste du progrès de la science. Dans la pratique normale, il n'y a jamais rien de radicalement nouveau. Il y a du nouveau, hein, parce que quand même, c'est pas inintéressant de faire de la science dans le cadre de la science normale, car les problèmes sont toujours résolus par des manières de faire, des manières de travailler éprouvées. La science normale a pour objectif de ramener l'inconnu au connu. S'il y a un nouveau phénomène, eh bien, on va essayer de l'appréhender à l'aide des grandeurs pertinentes, d'essayer de faire coller une formule mathématique qui est déjà connue, en l'adaptant un peu, hein, de la résoudre, etc. Alors, quatrièmement, les fameuses anomalies. Alors, il peut arriver... Alors, les anomalies, c'est ce qui va déclencher les révolutions scientifiques. Il peut arriver que les phénomènes ne répondent pas aux prévisions empiriques, aux attentes, hein, de la théorie paradigme au sens de matrice disciplinaire et résistent à toutes les tentatives d'en fournir une explication selon les procédures autorisées. Donc, une anomalie, c'est un problème non résolu, mais qui est considéré comme important, et qui, à première vue, rentre dans le cadre... rentre dans le champ d'application du paradigme et on essaye de le résoudre, ce problème, et on n'y parvient pas. Hein. Les meilleurs praticiens de la discipline ne parviennent pas à résoudre le problème. C'est une anomalie. Le terme anomalie est tiré de l'astronomie et une, anomalie, c'est par exemple si vous observez le mouvement de la planète Mars à partir de la Terre. Eh bien, à certains moments, il y a Mars qui va dans cette direction-là, et puis fait ce qu'on appelle une rétrogradation, revient en arrière, et puis continue, comme ça. Ça s'explique très facilement dans le cadre du système héliocentrique, et même Ptolémée. Mais pour Eudoxe, qui était l'astronome dont Aristote s'inspirait dans la théorie du ciel, dans son livre La théorie du ciel, pour Eudoxe, donc les planètes étaient fixées à des sphères, hein, qui étaient centrées sur la Terre et qui tournaient, ben, là, c'était une anomalie pour la théorie d'Eudoxe. Bon, il a essayé de la résoudre, hein, donc, parce qu'il n'était quand même pas le premier venu non plus, là, Eudoxe. Mais ces rétrogradations de Mars, c'était une anomalie. Donc le terme anomalie provient historiquement de l'astronomie et typiquement des rétrogradations du mouvement de Mars vu de la Terre, hein, évidemment. Mais une anomalie, pour Kuhn, c'est un problème non résolu. Okay. Donc, une anomalie, anomos, donc c'est nomos loi en grec, a, donc c'est la négation, l'alpha privatif, hein, la non-loi, c'est ce qui n'est pas conforme aux lois de la théorie acceptée. Ici, la théorie d'Eudoxe, des sphères concentriques. Donc, une anomalie, évidemment, apparaît toujours sur le fond de loi. Il faut qu'il y ait un paradigme qui soit le background, la toile de fond sur laquelle se profile cette anomalie. Hein. Donc l'anomalie apparaît dans le cadre d'un paradigme, de la pratique des scientifiques dans le cadre d'un paradigme. Okay. On ne peut pas parler d'anomalie sans qu'il y ait un paradigme accepté, etc. Le problème est non résolu par les techniques, par les pratiques éprouvées, acceptées de la communauté scientifique dans le cadre de la science normale. Alors, l'occurrence d'une anomalie a pour effet d'ébranler la confiance en la fertilité du paradigme. Hein? Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Et donc, à ce moment-là, certains membres de la communauté scientifique tentent de résoudre l'anomalie, ce problème, hein, par des moyens interdits par le paradigme accepté. Et il s'ensuit d'ordinaire, mais pas toujours, une période de crise. Hein, la crise, c'est le grec krino, juger. Hein? Crise, ben, il faut juger si on continue à travailler dans le cadre du paradigme ou bien si on essaie autre chose. Hein. Il faut faire preuve de jugement ici, jugement. Raisonner, c'est assez facile. Hein. En général, les gens raisonnent assez bien. Mais les gens qui ont un bon jugement, là, c'est plus difficile. Enfin, on a tous un bon jugement, mais ça dépend un peu des circonstances. Juger, c'est vraiment décider. Hein. Décider et les bonnes décisions, les bons jugements ne se font pas en ayant recours à la logique. Seul, hein, la logique ou le syllogisme ou des raisonnements valides d'un point de vue logique, hein, vous savez cela. Donc, il y a une période de crise qui est caractérisée par une prolifération de solutions tentatives. Hein. Donc, Il y a une anomalie, un problème non résolu, considéré comme important, qui ressort du domaine du paradigme, et on ne parvient pas à le résoudre avec les méthodes déjà utilisées, et donc on essaye autre chose. Et alors, bon, il y a plusieurs possibilités, évidemment. Hein. Là, il y a des scientifiques qui commencent à travailler de façon un peu plus individualiste, plus solitaire, qui essayent des choses qui ne sont pas légitimes, qui sont interdites par le paradigme qui guidait la pratique normale. Et donc, la situation de l'astronomie peu avant Copernic est, selon Kuhn, un exemple typique de crise. Donc, Ptolémée, deuxième siècle après Jésus-Christ. Okay. Copernic, le De Revolutionibus Orbium Celestium, la révolution, c'est 1453. Okay. Donc, ça fait 12-13 siècles après Ptolémée. En 13 siècles, il y a quand même des petites anomalies, hein, des petits désaccords entre les tables faites par Ptolémée et les observations qui étaient réalisées par les gens à la Renaissance. Hein, c'est sous la précession des équinoxes, des choses de ce genre. Donc, et alors, évidemment, les gens ont commencé à compliquer, ont ajouté des cercles sur les cercles, des épicycles, des épicyclets, des choses comme ça, pour expliquer ce que c'est, ce qui fait qu'il y a une prolifération de versions. C'est-à-dire une prolifération de nombreuses versions de systèmes, de nombreux systèmes astronomiques, avec des combinaisons de cercles différentes et variées, mais incompatibles entre elles. Prolifération de versions. Alors, crise, on sait qui a raison, on ne sait pas très bien. Alors, Alphonse de Castille, qui était un roi important et qui s'intéressait à l'astronomie, est cité par Copernic, il a dit, hein, si Dieu l'avait consulté, là on est au XIIIe siècle, donc avant Copernic, si Dieu l'avait consulté avant de créer l'univers, il aurait reçu de bons conseils. Hein. Alors, Alphonse de Castille était profondément croyant, donc il n'était pas Dieu en cause, il mettait en cause les astronomes. Astronome qui devait essayer quand même de trouver le système simple, le plus simple possible, hein, capable de sauver les phénomènes astronomiques, de sauver les observations. Alors, le sentiment d'insécurité, hein, puisque le paradigme est mis en cause par l'anomalie, qui règne dans la communauté scientifique, conduit certains à essayer n'importe quoi. Okay. C'est pas tout à fait vrai, mais enfin, c'est ce que dit Kuhn, hein. Pour résoudre l'anomalie génératrice de la crise, on entre dans la science extraordinaire, non normale, anormale, où l'on travaille de manière individuelle plutôt qu'en équipe. Citation, confrontés à la crise, les scientifiques prennent une attitude différente vis-à-vis des matrices disciplinaires existantes et leurs exemplaires, et la nature de leur recherche change en conséquence. La prolifération des articulations en compétition, la volonté d'essayer n'importe quoi, l'expression de mécontentement explicite, ça va pas ici, le recours à la philosophie. Et c'est vrai que dans les épisodes de science extraordinaire, les gens se posent des questions philosophiques. Einstein, par exemple, il avait une formation philosophique. Il connaissait bien Kant, connaissait bien Spinoza, connaissait l'histoire de la philosophie. Enfin, en tout cas, certains auteurs de l'histoire de la philosophie, des auteurs importants. Et le recours à la philosophie et le débat sur les questions fondamentales, tout cela constitue des symptômes d'une transition de la recherche normale à la recherche extraordinaire. Okay? Donc ça, c'est la crise déclenchée par l'anomalie. Alors, la crise peut se résoudre de trois manières. Bon, première possibilité, le paradigme en vigueur, c'est-à-dire accepté avant la crise, avant l'anomalie, parvient finalement à résoudre le problème et donc, à ce moment-là, c'est salué comme un nouveau triomphe, évidemment, du paradigme. Et ça, c'est ce qui s'est passé avec l'explication du mouvement de la Lune. Le mouvement de la Lune, bon, ben, c'est le problème des trois corps. Hein. Vous avez la Terre, le Soleil et puis la Lune. La Lune qui est assez grosse, hein, comme vous le savez, c'est un très gros satellite. Il y a certains qui disent, l'astronome, au fond, la petite Terre ne mérite pas un aussi gros satellite. Bon, enfin, toujours est-il que, vous savez sans doute, certains d'entre vous le savent, que la Lune joue un rôle stabilisateur, hein, de la Terre qui a permis justement l'évolution des espèces sur de très longues périodes. S'il n'y avait pas ce gros satellite stabilisateur, ben, il y aurait eu des secousses dans le mouvement de la Terre qui auraient pu perturber les choses. Et donc, Newton lui-même avait envisagé, ce qui est évidemment totalement interdit, par son paradigme, de modifier la valeur de l'exposant dans la fameuse formule de la loi de la gravitation universelle, hein, en 1 sur la loi, la force de la gravitation universelle, la force est proportionnelle aux masses et inversement proportionnelle au carré des distances, hein, entre les corps. Il avait modifié le carré, le 2, l'exposant 2, il avait ajouté virgule et puis quelque chose. Hein. J'avais trouvé ça horrible. Pas très simple, effectivement. Hein. J'avais trouvé ça horrible. Et il avait retardé la publication des Principia. Et ça a retardé la publication. Finalement, c'était publié, il a trouvé une solution qui n'était pas parfaite, mais c'est plus tard qu'on a trouvé une solution, par approximation, évidemment, successive, le Verrier et compagnie. Et... Donc là, c'était un nouveau triomphe de la mécanique céleste newtonienne. Bon, deuxième possibilité, il y a des versions alternatives, aucune ne parvient à s'imposer, et alors le problème est mis sous le tapis. Hein. Bon, on va laisser ça pour les autres scientifiques qui nous succéderont, hein, et on va s'occuper d'autres choses, c'est toujours quand même une série de choses à faire en science. Hein. Et donc, par exemple, la précession du périhélie de Mercure, toujours un exemple de l'astronomie, c'était connu au 19e siècle. Hein. Donc vous avez ici vous avez le Soleil qui est au foyer de l'ellipse, et pas au centre de l'ellipse, c'est Mercure. Mercure tourne sur une ellipse et cette ellipse décrit une rosace. J'exagère évidemment. Hein. Vous avez, j'ai un très mauvais dessinateur, mais voilà. Donc c'est ce qu'on appelle la précession du périhélie. Le point le plus proche du Soleil se déplace. Okay. Le périhélie. Le point le plus proche du Soleil se déplace par rapport aux étoiles. C'est les étoiles qui constituent le système de référence. Et ce n'est qu'avec Einstein, la théorie de la relativité générale, qu'on a eu une solution quantitative précise, hein, qu'on a pu expliquer de façon précise la précession du périhélie de Mercure. Bon, toutes les planètes précèdent, mais Mercure, étant pratiquement, bon, c'est la planète la plus proche du Soleil, ben, c'était celle-là qui était le plus sujette au champ de gravitation du Soleil, et c'est dont le périhélie précessait le plus fortement. Troisième possibilité, si parmi les versions alternatives à l'ancien paradigme en surgit une capable de résoudre l'anomalie et de gagner, parfois après de longs et âpres débats, l'assentiment de la communauté scientifique, nous pouvons dire qu'une révolution scientifique a eu lieu. Donc parmi les versions alternatives en compétition, il y en a une qui parvient à s'imposer. Hein. Alors il y a une révolution. Donc, il y a l'ancien paradigme est remplacé par un nouveau. Ça veut dire que la communauté des scientifiques estime, après un certain temps, c'est pas si instantané que ça, après un certain temps, la communauté des scientifiques estime qu'une des versions alternatives développées est meilleure, résout mieux les problèmes, hein, est plus satisfaisante que l'ancienne, et l'ancien paradigme est alors abandonné. Bon, bien qu'une crise soit le prélude habituel à une révolution scientifique, Kuhn reconnaît dans sa postface qu'elle n'en est pas une condition indispensable, mais ça c'est quelque chose de plus spécialisé. Par contre, la présence d'une anomalie, d'un problème non résolu, important, et Kuhn met l'accent sur les problèmes empiriques, donc le problème d'explication des observations, des mesures, hein, plutôt que les problèmes théoriques, eh bien une condition absolument nécessaire au déclenchement d'une révolution scientifique. Alors, l'incommensurabilité. Bon, maintenant, vous voyez, on fait une petite pause intellectuelle. Hein, pas... c'est que, voilà, une révolution scientifique, c'est le passage d'un paradigme à un autre déclenché par un problème non résolu, et le nouveau paradigme, évidemment, c'est la moindre des choses qu'on lui demande, est capable de résoudre l'anomalie qui a déclenché, en général, la crise. Très bien. Seulement, maintenant, quelle est la structure de ça? Structure d'une révolution. Quelle est la relation entre l'ancien et le nouveau paradigme? Et pourquoi? Pour quelles raisons, si on considère, comme Kuhn le fait, que le progrès à travers les révolutions n'est pas irrationnel, quelles sont les raisons que les scientifiques ont de trouver que le nouveau paradigme est meilleur que l'ancien paradigme? Donc, alors ici, il y a une espèce de valse et d'hésitation dans l'œuvre de Kuhn, qui s'est été la cause de toute une série, évidemment, de variations d'interprétation. Et chaque interprétation, bien entendu, peut se prévaloir de tel texte de Kuhn et une autre interprétation de tel autre texte. Parfois même, certaines interprétations concurrentes se prévalent du même texte de Kuhn, interprété de façon différente. Bon. Et donc, qu'est-ce qui permet de dire que d'une part il y a une révolution et il y a un changement abrupt, Donc alors Kuhn travaille beaucoup pour dire, ben voilà, le nouveau paradigme, c'est vraiment quelque chose de différent, hein, incommensurable, donc étymologiquement sans commune mesure avec le paradigme. Il y a vraiment une révolution, un changement abrupt, radical. Les scientifiques travaillent de façon différente, ils voient le monde différemment, etc. Donc les positivistes ont tort, il n'y a pas de continuité, etc. Il y a vraiment une discontinuité. Donc il veut d'abord montrer qu'il y a vraiment bien une révolution, hein, une révolution au sens fort. Okay. Et puis d'autre part, hein, après avoir bien montré qu'il y a une révolution et un changement abrupt, il a montré, oui, mais quand même, hein, il y a des choses qui perdurent, il y a un progrès à travers les révolutions, il y a quelque chose qui traverse les révolutions, et il y a des raisons, hein, qui sont presque universelles, partagées par les scientifiques de toutes les époques, qui guident leur choix lorsqu'il y a des paradigmes en compétition. Ça, c'est le paradoxe qui est central dans l'œuvre de Kuhn. D'une part, il veut montrer qu'il y a des révolutions, et c'est vrai qu'il y a des changements abrupts, mais il va un peu trop fort dans certains textes dans ce sens-là, et puis dans d'autres, il dit, oui, mais vous savez, ces révolutions, c'est pas comme les révolutions en peinture, c'est pas comme la révolution française, hein. C'est quelque chose en science, il y a quand même un progrès à travers les révolutions. Il y a un progrès, surtout un progrès dans la résolution des problèmes, hein, dans le problème de l'activité. Alors, donc, on a vu que le nouveau paradigme est logiquement incompatible. Ça, ok, il doit rendre compte de l'anomalie initiale. Hein. Si la théorie de Dockes prédit que le Mars va toujours dans le même sens, et puis qu'on voit que Mars revient en arrière, eh ben, le nouveau paradigme, évidemment, va être contradictoire avec l'ancien. L'astronomie de Ptolémée n'est pas compatible avec l'astronomie de Dockes. Ok, bon, ça, c'est pas tellement un problème. Mais l'incommensurabilité, donc, il n'y a pas de commune mesure, s'articule pour Kuhn sur plusieurs éléments. Tout d'abord, le stock d'exemplaires est différent. Et donc, les significations des termes sont différentes. Parce que les générations de scientifiques apprennent qu'est-ce que ça veut dire la masse, qu'est-ce que ça veut dire la force, qu'est-ce que ça veut dire un gène, qu'est-ce que ça veut dire un champ, des choses de ce genre. Hein, ben, ces significations sont acquises à partir de l'étude des exemplaires. Donc les significations des termes utilisés sont solidaires des exemplaires qui font partie de la matrice disciplinaire. Si le stock d'exemplaires change, les significations changent. Peut-être pas totalement, mais elles changent. Donc les significations des termes importants sont relatifs à la matrice disciplinaire et donc certains débats historiques apparaissent comme étant des dialogues de sourds. Okay. Conséquence, des groupes de scientifiques travaillant à partir d'exemplaires différents attribueront des significations différentes à des termes identiques. Par exemple, le terme de masse possède une signification différente dans la mécanique classique, ne varie pas avec la vitesse, tandis que dans la mécanique relativiste, la masse varie avec la vitesse. Donc il y a des difficultés de communication. Ça, c'est le premier élément de l'incommensurabilité. De plus, les données empiriques sont différentes. Ça, c'est plus embêtant encore, parce que ce qui compte en science, l'autorité absolue, hein, c'est l'expérience, les observations. Okay? Il y a plusieurs théories en compétition. Ah, on va faire une mesure, une observation, et c'est l'observation qui va décider. C'est ça l'autorité. Hein? Ce n'est pas le chef du labo, hein, ou une autre autorité politique, etc., qui va décider. Et donc, Kuhn dit, alors des phrases très étonnantes, « Bien que le monde ne change pas avec un changement de matrice disciplinaire, donc Kuhn est un réaliste global. Il y a un monde qui est là, qui existe. Le connaître, ça c'est plus difficile, mais il y a un monde qui existe. Ce n'est pas une construction de notre esprit. Il y a une réalité externe à nous. Bien. Une chose en soi, comme il dira plus tard, en empruntant le langage de Kant. Mais il n'utilise pas ce langage kantien dans la structure. Bien que le monde en soi, en lui-même, ne change pas, lorsqu'il y a un changement de matrice disciplinaire, c'est-à-dire une révolution, le scientifique, après, travaille dans un monde différent. Exemple, là où Aristote voit un corps, donc un objet, hein, vous avez un clou, un fil et une boule, okay, qui bouge comme ça dans le plan. Hein. Bon. Eh bien, Aristote, il voit, c'est un corps qui tombe avec difficulté. Après un certain temps, il s'arrête, Il tombe avec difficulté parce qu'il a un fil à la patte, si vous voulez. Hein. Donc il essaye de se rapprocher le plus possible du centre du monde parce que c'est vers là que tendent les corps graves, selon la dynamique d'Aristote. Mais il est un peu gêné par ce fil. Tandis que pour Galilée, le pendule, c'est un corps qui, à chaque oscillation, réussit à revenir à peu près au même endroit. Okay? Donc, perspective est différente. Donc là où Aristote voyait un corps qui tombe avec difficulté, Galilée voit un pendule, c'est-à-dire un corps qui, à chaque oscillation, parvient à répéter ce mouvement. Et s'il ne le répète pas, c'est parce qu'il y a des frottements dans l'air, le fil, etc. Okay? Donc, placé en présence des mêmes objets, étant au même endroit et regardant dans la même direction, les scientifiques voient des choses différentes. Kuhn utilise le terme objet, hein, objet, donc des entités du monde en soi, si vous voulez, mais les objets sont inconnaissables, ce que l'on connaît dans le cadre d'un paradigme, ce sont des choses. Et des paradigmes différents voient des choses différentes. C'est-à-dire que les praticiens, les scientifiques qui travaillent dans des paradigmes différents voient des choses différentes, ils voient le monde différemment. Donc le monde est regardé selon la perspective de la matrice disciplinaire qui voit les choses telles qu'elles puissent être expliquées dans le cadre du paradigme, c'est-à-dire comme semblables, différentes de phénomènes déjà expliqués par des exemplaires. Alors il fait une comparaison avec la psychologie de la Gestalt. Là où on voit un canard, on peut aussi voir un lapin, vous connaissez, hein, ces dessins là. Donc, comment est-ce que je vais dessiner ça? Parce que je suis très mauvais dessinateur. Voilà, lapin ou un canard, si vous interprétez charitablement ce dessin. Parce que moi, j'ai fait de la physique et pas de la peinture. Donc, selon Kuhn, on n'interprète pas le dessin tantôt comme un canard, tantôt comme un lapin. On voit directement un canard ou un lapin. On ne voit pas quelque chose de commun interprété ensuite comme un canard ou comme un lapin. Selon Kuhn, il n'existe pas de langage observationnel neutre, commun à des paradigmes dans lesquels on peut décrire une base empirique au moins en partie commune. Le langage utilisé par le paradigme, si vous êtes dans le paradigme des lapins, vous voyez un lapin. Si vous êtes dans le paradigme des canards, vous voyez des canards. Pas possible de passer de l'un à l'autre en disant que les lignes ici sont interprétées tantôt comme canard ou tantôt comme lapin. C'est discutable ceci, hein, mais j'essaie d'expliquer à partir de l'exemple de Kuhn ce qu'il veut dire. Donc il y a un gestalt switch, un changement de forme. Donc le scientifique voit directement des choses différentes selon le paradigme dans lequel il travaille. Donc Aristote voit directement un corps tombant avec difficulté, Galilée voit un pendule. Les data, les données empiriques, ce qu'on voit, ce qu'il voit est différent. Donc il n'y a pas de base empirique, il n'y a pas de données empiriques communes au paradigme en compétition qui permettrait d'être invoqué comme autorité pour départager partisans des deux paradigmes. Enfin, troisième élément d'incommensurabilité, donc premier élément c'est les significations des termes, deuxième élément d'incommensurabilité, les scientifiques qui travaillent dans des paradigmes différents voient le monde différemment, et donc il n'y a pas de base empirique, base observationnelle qui permet de les départager. Et troisièmement, les valeurs peuvent être différentes. Les valeurs. Donc là, il y a un exemple, c'est la révolution chimique. Avant, vous aviez la physique, la chimie du phlogistone, défendue par des gens comme Priestley, le phlogistone étant quelque chose qui s'échappe des corps qui brûlent. C'est ce qu'on voit. Hein. Vous faites brûler quelque chose, du bois, de la fumée, etc., on dirait qu'il y a quelque chose qui s'échappe. Hein. Lavoisier a dit non, si ça brûle, c'est parce qu'il y a de l'oxygène dans l'air et que cet oxygène est capté par les produits de combustion. Et ça, si vous faites des mesures de poids précises, vous verrez que moi, Lavoisier, j'ai raison. Mais les partisans de Priestley disent « Ah, mais oui, ok, peut-être là, il y a une anomalie quantitative pour la théorie du phlogistone, donc c'est quelque phlogistone qui s'échappe des corps qui brûlent, mais ma théorie du phlogistone permet d'expliquer les différences qualitatives entre les métaux et les non-métaux, des choses de ce genre. » Au moment où la discussion à la fin du XVIIIe siècle avait lieu. Hein, avait lieu. Alors, qui a raison à ce moment-là? Que choisir? Quel paradigme choisir? Rester avec la théorie du phlogistone ou bien adopté la théorie de Lavoisier. Bon, alors il y en a un certain nombre qui ont adopté la théorie de Lavoisier, les jeunes en général, hein, les vieux, là, ils ne changent plus d'avis, hein, ou très peu, hein. C'est plus inconnu, hein, mais voilà, c'est comme ça, hein. Je fais partie de cette catégorie. Et donc, les jeunes travaillent dans la nouvelle chimie, et puis, évidemment, avec l'évolution de la nouvelle chimie, bien entendu, on a pu expliquer de façon beaucoup plus précise la différence entre les métaux et les non-métaux que la théorie du phlogiston. Mais toujours est-il que, au moment où les deux paradigmes sont en compétition, quelles sont les raisons, hein? Est-ce que c'est irrationnel de continuer à travailler dans le cadre de l'ancien paradigme? Kuhn dit que non. On ne peut pas taxer d'irrationnel des gens qui continuent à suivre Priestley, parce qu'ils ont des valeurs différentes. Hein? Et on ne peut pas non plus taxer d'irrationnel les gens qui adoptent la nouvelle théorie de Lavoisier, parce que bon, les mesures de poids, de combustion leur donnent raison. Okay? Bon, alors, si on presse la question de l'incommensurabilité, donc sans comme une mesure, on a des difficultés à comprendre, comme je vous ai dit, comment il peut y avoir de progrès à travers les révolutions. Alors, il y a une chose que Kuhn récuse, comme d'ailleurs beaucoup de philosophes des sciences, il n'est pas le seul, il n'y a pas un progrès vers la vérité. Il n'y a pas un progrès des sciences vers... On ne se rapproche pas, pour Kuhn, d'une théorie paradigme qui représenterait ou qui correspondrait, qui serait l'image, qui serait plus vraie, hein, qu'une autre. Ça, c'est... Je pense qu'il a tort sur ce point, personnellement. Mais enfin, je ne suis pas ici pour défendre mes propres idées, mais si vous allez sur Internet, là, vous pouvez aller voir mon CV et les articles que j'ai publiés. Mais j'essaye d'expliquer donc la théorie de Kuhn. Donc, pour Kuhn, il y a une compétition entre paradigmes, et dans certains écrits plus tardifs, il compare cette compétition entre paradigmes par la compétition qui a lieu en biologie, hein, la compétition entre les individus au sein d'une même espèce, okay, et le mécanisme de sélection naturelle, hein, la survivance du plus apte, des choses qui survit à l'âge adulte et qui peut transmettre alors ses caractéristiques à ses descendants, etc. etc. Okay. Donc il n'y a pas de convergence vers la vérité. Pourtant, il y a un progrès rationnel, en un certain sens, une rationalité pratique, hein, pas une rationalité théorique au sens de rationalité logique et d'application de règles logiques comme le pensaient Popper et d'autres. Donc, cette incommensurabilité paraît entraîner l'impossibilité de fournir des critères universels, trans-théoriques ou trans-paradigmatiques, qui permettraient de comparer les mérites respectifs des paradigmes et de choisir rationnellement entre des paradigmes en compétition au moment de la science extraordinaire. Il existe des arguments rationnels qui possèdent certes une force de persuasion. Toutefois, un scientifique qui refuse de se laisser persuader même par des arguments rationnels et décide de continuer à adopter l'ancien paradigme n'a pas nécessairement une attitude irrationnelle selon Kuhn, même si, après un certain temps, l'ensemble de la communauté ralliée au nouveau paradigme aura cessé de le considérer comme un scientifique. Si vous voulez faire de la science aristotélicienne aujourd'hui, vous pouvez. Mais bonne chance pour trouver un poste à l'université, par exemple. Donc, dans ces conditions, il est difficile pour Kuhn de défendre sans courir le risque de se contredire qu'il y a malgré tout un progrès à travers les révolutions, et que cette faculté de progresser à travers les révolutions est typique de la science. C'est ce que je disais au début. La science est une activité de résolution de problèmes progressive. Elle est progressive au contraire des autres activités de résolution de problèmes, hein, caractéristiques de l'activité humaine. Et dans le dernier chapitre de la structure, Kuhn donne quelques critères de comparaison entre les matrices disciplinaires, comme la quantité des problèmes résolus et le degré de précision avec lequel ils le sont. Mais dans d'autres parties du livre, avec Lavoisier, il dit bah, « Lavoisier, c'est plus précis, mais Priestley explique que qualitativement les différences entre métaux et non-métaux à la fin du XVIIIe siècle. » Donc, en tout cas, à la fin, il dit qu'il y a des critères transparadigmatiques, critères universels. Quantité de problèmes résolus, donc le stock d'exemplaires, le degré de précision, ceci équivaut à admettre qu'il est possible de comparer les paradigmes et qu'il existe des critères rationnels de choix, ce qui est en désaccord avec la notion d'incommensurabilité décrite plus haut. Alors, de façon assez intéressante, plus tardivement, Kuhn a comparé sa notion d'incommensurabilité avec l'incommensurabilité de la mesure de l'hypoténuse d'un triangle. Hein? Par exemple, si vous avez un triangle, ici, 1, 1, et ici, vous avez racine de 2. Okay? Théorème de Pythagore. Donc, pouvait pas mesurer l'hypoténuse en termes d'unité des autres côtés. Et pourtant, on peut dire effectivement que l'hypoténuse est plus longue. Donc on peut comparer les longueurs dans ce moment-là, même si mathématiquement, en un certain sens, l'hypoténuse est incommensurable avec les autres côtés. Donc c'est une image. Mais donc pour lui, l'incommensurabilité n'implique pas l'incomparabilité. L'incommensurabilité n'implique pas l'impossibilité de comparer les paradigmes. On ne peut pas le dire d'ailleurs, parce que si l'incommensurabilité implique qu'il n'est pas possible de comparer les paradigmes en compétition, ben alors à ce moment-là, on ne peut plus parler de progrès. Parce qu'une condition minimale pour pouvoir décider si le nouveau paradigme est meilleur que l'ancien, c'est de pouvoir les comparer. Il faut d'abord pouvoir les comparer, nécessaire de pouvoir les comparer pour décider que le nouveau ou l'ancien est meilleur, offre de meilleures solutions au problème. Okay? Et donc Kuhn s'est toujours défendu des reproches de relativisme, de constructivisme et d'irrationalisme. Dans ses écrits tardifs, l'incommensurabilité se traduit par les différentes taxonomies, etc. Bon, ok. Ceci donc, l'incommensurabilité ne constitue pas un obstacle à une compréhension mutuelle et les évidences empiriques, évidemment, vont massivement à l'encontre aujourd'hui de la cosmologie aristotélicienne. Donc sur la longue durée, effectivement, on peut dire qu'on a bien raison aujourd'hui de travailler dans le cadre de la cosmologie, disons, d'Einstein, le modèle cosmologique de la relativité générale. Bon, il y en a plusieurs, mais enfin ça... En tout cas, on travaille dans le cadre des équations du champ gravitationnel d'Einstein et plus dans le cadre de la cosmologie des sphères, la sphère des étoiles immobiles de Dox et la Terre immobile, la sphère des étoiles tourne pour Dox et Aristote. Okay. Cependant, je vais terminer, le problème du choix rationnel entre les théories, dont certaines sont encore peu développées, restent entiers si celles-ci sont incommensurables au sens défini dans la structure et donc rationnellement incomparables. Donc les trois éléments d'incommensurabilité, signification des termes, le monde est vu différemment et les valeurs sont différentes. Okay. Si les évidences empiriques sont relatives au paradigme ou construites par ces derniers, si les données empiriques sont relatives au paradigme, comment peuvent-elles servir d'appui à un choix rationnel? Le solde scientifique se dérobe sous leurs pieds, le solde des mesures et des observations se dérobe sous leurs pieds, comme autorité suprême du choix rationnel entre les théories. Et certains textes de Kuhn dans la structure paraissent indiquer que le choix d'une théorie serait en définitive arrêté en fonction de facteurs externes, donc extérieurs à la manière de travailler des communautés scientifiques, facteurs sociaux, religieux, économiques, psychologiques. D'ailleurs, il compare le changement de paradigme dans certains textes, une révolution à une conversion religieuse. Alors, conversion religieuse, ce n'est pas nécessairement irrationnel. Personnellement, je ne pense pas que ce soit irrationnel. Mais ce n'est pas tout à fait la rationalité scientifique, en tout cas. Ce n'est pas en tout cas ce qui correspond à ce qui correspondrait à une caractérisation du progrès, caractère progressif à travers les révolutions de l'activité scientifique qui est le trait distinctif de la science. Donc, l'activité scientifique, évidemment, comme toute activité humaine, est certes influencée par de tels éléments externes, ça ne fait aucun doute, mais l'histoire des sciences, encore une fois, puisque Kuhn fait grand cas de l'histoire des sciences, nous enseigne aussi que ce sont les évidences empiriques, ou les preuves empiriques, les observations faites par Galilée avec son télescope Harvey, la circulation du sang, Lavoisier avec ses balances et les mesures des produits de combustion, acceptées de bonne foi par les différentes parties en présence, qui constituent la raison principale de la préférence d'un paradigme et la promesse de sa capacité à résoudre les problèmes futurs. Donc c'est une critique ici que j'adresse à Kuhn, qui a quand même une certaine objectivité transparadigmatique des observations. Alors je termine par une citation de Tim Modlin, un philosophe des sciences américain qui travaille à l'université Rutgers University, pas très loin de New York. Il dit « Le constructiviste peut bien empiler tous ses ouvrages sur un des plateaux de la balance. » Donc, et en plus, il grimpait avec toute sa famille et ses amis. Il reste qu'un Foucault, un Harvey ou un Cavendish. Cavendish est celui qui est parvenu à mesurer de façon très précise la constante de la formule de la force de gravitation de Newton. aura toujours plus de poids avec un simple bout de papier tiré d'un journal de laboratoire. Donc le constructiviste, alors je n'ai pas suffisamment expliqué ce que c'est qu'un constructiviste, qui s'inspire fort de Kuhn et aussi de ce qu'on appelle le second Wittgenstein, les investigations philosophiques. Le constructiviste, c'est celui qui estime que la réalité est construite à partir de la vision du monde associée à un paradigme. Au fond, le constructivisme, c'est une version de l'idéalisme. Une position philosophique qui consiste à dire que, au fond, la réalité, c'est quelque chose qui est construite par moi, individuellement, ou par nous, à partir des idées de mon esprit, à partir de mon langage, à partir de mes croyances, et que la réalité, c'est ça. Non, la réalité, d'ailleurs, comme disait Popper, on a conscience qu'il y a une réalité externe à nous, c'est paradoxalement, c'est l'expérience de l'erreur. Lorsque on croit que la clé du garage se trouve dans la poche de tel, elle ne se trouve pas. Ou bien on croit qu'on va pouvoir traverser un couloir sans difficulté et on bute contre une porte en verre, des choses de ce genre. Et donc, il y a une réalité qui s'impose à nous, et cette réalité, justement, c'est ce qui est, en science en tout cas, c'est ce qui s'exprime dans les résultats de mesure, et comme le dit Tim Modlin, donc ces boules de papier qui sont des expressions, des traces d'observations faites en laboratoire. Voilà, merci.
Oui, voilà. Kuhn bien présenté, et puis on a terminé avec 3 minutes de petites critiques qui étaient, je crois, utiles pour nous éclairer un peu tous. Alors, à vous, qui ouvre le feu, qui pose une question ou qui intervient, enfin. Personne ?
La première question est plus difficile.
C'était extrêmement intéressant. Et, il faut dire, avec Kuhn... c'est un peu où on place le curseur, parce qu'on a un peu l'impression qu'il se maintient dans un certain flou, et puis on peut être d'accord avec lui, sans problème. Si on le pousse trop loin, ça devient absurde. Mm-hmm. Donc, par exemple, dans le rapport d'incommensurabilité qu'il établit entre la théorie la physique d'Aristote d'une part et la démarche de Galilée, on ne peut être que d'accord. À un certain point, on pourrait dire que la vraie révolution type Kuhn, c'est ça. Ça, c'est typique. Par exemple, la révolution, entre guillemets, donc Einstein par rapport à la théorie Newton, il semble que le rapport d'incommensurabilité est tout à fait différent. Voilà. Il n'y a pas un changement de vision du monde aussi poussé que ce qu'il y a dans le passage de la physique aristotélicienne à la physique de Galilée. Entre la théorie Newton et la théorie de la relativité, il y a un rapport, si on passe à la limite mathématique de la théorie de la relativité, on peut retrouver la théorie Newton. Donc il y a plutôt un rapport d'inclusion qu'un rapport d'incompatibilité. Mm.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, il est clair que pour Kuhn, le passage de la physique newtonienne à la physique einsteinienne est une révolution scientifique. Okay. Et donc, pour lui, par souci de cohérence, il doit dire que le paradigme de Newton, ou la matrice disciplinaire de Newton, la théorie de Newton, est incommensurable avec la théorie d'Einstein, de relativité restreinte et aussi relativité générale. Okay. Alors, question, que la communauté des scientifiques passe de la mécanique classique newtonienne à la mécanique einsteinienne ou à la mécanique quantique, chose de ce genre. Alors, pourquoi est-ce qu'on continue à enseigner la mécanique classique dans les écoles et à l'université Pourquoi ? Parce que c'est une bonne approximation, comme vous dites. C'est une bonne approximation dans toute une série de cas. Alors, maintenant, si vous avez une problématique si vous êtes un réaliste épistémologique, c'est-à-dire qu'il y a des théories qui sont plus vraies que d'autres, davantage vraies que d'autres, vous pouvez dire, si vous voulez prendre une position philosophique réaliste, vous devez dire, c'est la théorie, pour le moment, nous avons de bonnes raisons de penser que c'est la théorie d'Einstein qui est vraie, ou en tout cas plus vraie que la théorie de Newton, elle est plus précise, etc. Okay. Elle inclut d'une certaine manière la théorie de Newton, à la limite. Bien. Mais ce n'est pas du tout ce que Kuhn dit. Il n'y a pas de progrès vers la vérité. Il dit simplement que si la théorie d'Einstein est meilleure, c'est parce qu'elle résout davantage de problèmes et mieux que la théorie newtonienne. À ce moment-là, c'est quand même difficile de défendre Kuhn sur ce point-là, parce que la physique newtonienne, la mécanique classique, résout toute une série de problèmes. Très bien, vous n'allez pas commencer à faire de la relativité restreinte, ou même de la relativité générale, lorsque vous vous intéressez aux pendules simples. Ce serait stupide de faire ça. Okay. Donc vous avez un stock d'exemplaires qui fonctionne bien encore aujourd'hui dans le cas de la mécanique classique. Maintenant l'exemple d'Aristote. Alors en physique certainement. En physique Aristote là il y a vraiment une différence très forte entre la physique aristotélicienne. Mais en biologie les choses sont moins claires parce que donc ce qui est central évidemment à la physique d'Aristote c'est que les substances, les entités ont des formes, des essences, qui sont des principes d'action, des principes internes d'action. Alors en biologie, vous avez le concept de fonction, le concept de télonomie ou des choses de ce genre. Certains philosophes disent que ce sont les héritiers, pas tellement lointains de la physique d'Aristote. Je disais qu'Aristote c'était un biologiste avant la lettre. Maintenant, évidemment, vous avez d'autres biologistes qui disent « Ah non, tout est dans les gènes. L'ensemble de la biologie peut être réduite à l'ADN ou des choses de ce genre. » Mais ils ne font pas l'unanimité. C'est une tendance dominante aujourd'hui, qui ne fait pas unanime. Donc, évidemment, les gens qui disent que la biologie se réduit finalement à la chimie de l'ADN ou la chimie, la chimie en général, une chimie organique, biologique, oui, c'est un courant important, la biochimie, mais c'est pas dominant, mais c'est pas unanime. Il y a toute une série de phénomènes importants qui ne sont pas expliqués par ça.
Je crois qu'il y avait une question de l'autre côté que je n'avais pas vue.
Une question très compliquée. Simplement pour voir si j'ai bien compris votre idée de paradigme. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le réchauffement...
Pas moi, c'est cool.
Est-ce que le réchauffement de la Terre peut être considéré comme paradigme?
Pardon
le... Est-ce que le réchauffement de la Terre peut être considéré comme paradigme?
Un paradigme, c'est un problème résolu. C'est un problème résolu. On peut dire, voilà... On peut considérer, bon, il y en a qui le nient encore aujourd'hui, mais moi, d'après ce que je sais, je ne suis pas un spécialiste, mais ce que le réchauffement global, en tout cas ces dernières années, c'est un fait. Maintenant, la question, c'est de savoir si c'est d'origine humaine ou si c'est d'origine non humaine. C'est ça le débat, C'est dû à l'activité solaire ou des choses de ce genre. Donc, le réchauffement global, c'est quelque chose qu'on peut considérer comme un fait, et là, les gens sont d'accord avec le fonctionnement des thermomètres et des instruments qui mesurent la température. Ils disent, ben voilà, il y a un réchauffement. Alors le problème, c'est comment expliquer ce réchauffement. L'explication du problème satisfaisante, ça c'est un exemplaire, c'est un paradigme. L'explication à partir des activités humaines, c'est-à-dire la production de gaz et de choses, déforestation, d'autres choses de ce genre, c'est une explication qui est apparemment l'explication qui est l'explication reçue, mais qui n'est pas unanime. Donc, on ne peut pas dire qu'on soit dans une crise, mais évidemment, il y a des incidences politiques, économiques, des enjeux considérables sur lesquels il n'y a pas besoin d'insister. Et donc, il y a peut-être là des influences externes, mais la décision des scientifiques, la communauté des scientifiques, dans la mesure où ils sont le plus possible isolés des préoccupations économiques, politiques, environnementales, etc., semble dire qu'effectivement, c'est d'origine humaine. Et donc, à partir du moment, si on considère que, comme la majorité des scientifiques pensent, que l'explication du réchauffement climatique se fait à partir de l'activité humaine, alors là, c'est une solution exemplaire. Dans les faits, parce que ici, j'ai présenté de façon simplifiée, dans les faits, on dit toujours que les philosophes ne sont pas d'accord entre eux. C'est vrai. Il y a divergence entre les philosophes. Mais l'unanimité dans la communauté scientifique n'a jamais été totale. Bien sûr, il y a l'unanimité sur certaines choses importantes, mais il y a toujours des désaccords entre les scientifiques. notamment sur l'explication du réchauffement climatique, même s'il y a une minorité qui considère que ce n'est pas d'origine humaine. Il n'y a jamais une unanimité totale entre les scientifiques, dans quelque domaine que ce soit.
Je voudrais commencer par vous dire que votre exposé m'a fait penser à Saint-Augustin, qui a écrit quelque part « Croire en l'autorité, c'est s'épargner beaucoup de temps et gagner beaucoup de peine ». Je me demande, ce n'est qu'une demi-boutade, parce que je me demande, à écouter tous ces exposés sur l'épistémologie, qui sont par ailleurs fort intéressants, et notamment le vôtre, comment la science a réussi à avoir le statut qu'elle a dans nos sociétés, alors qu'elle n'a aucune autorité légitimante et légitimée qui décrète la vérité, vous l'avez dit dans votre exposé d'ailleurs.
Selon Kuhn, hein.
Et à l'inverse, par exemple, de l'Église qui a une autorité qui dit ce qui est juste, ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, qui définit l'hérésie et l'orthodoxie. Et comme vous dites, en plus, si c'est vrai, il y a un concept fondamental, c'est le concept de controverse. Les juristes connaissent bien ça, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils existent, c'est parce qu'il y a des controverses et que chacun défend son point de vue. Mais il y a des terribles controverses scientifiques dans pratiquement tous les domaines. Je pense par exemple à l'effet des faibles doses, de la radioactivité, des rayonnements électromagnétiques et des choses de ce genre. Alors moi je me demande comment la science est arrivée à avoir cette espèce d'autorité qu'elle a. Et je me demande si, en définitive, l'expérience, l'évidence de l'expérience n'est pas une certaine forme d'autorité légitimante. Et alors, ce qui nous ramène à Descartes et à Spinoza, en définitive, les vérités évidentes.
Je suis d'accord avec vous pour la science, pour les sciences, l'autorité, c'est les observations et l'expérience. Et c'est ça la raison pour laquelle les sciences jouissent d'un statut privilégié. Je me rappelle d'ailleurs, c'est une anecdote, que j'étais dans une thèse doctorat à Kinshasa il y a quelques années, et alors il y a un étudiant à l'occasion que vous discutez qui disait, au fond, la seule contribution vraiment universelle de l'Occident à l'humanité, c'est la science. Et c'est vrai que tout le monde étudie les sciences. Partout, en Chine, en Indonésie, dans les îles polynésiennes, en Amérique latine, en Australie, tout le monde étudie la physique, la chimie, la biologie. Pourquoi ? Ben justement, parce qu'il y a ce sol commun d'expérience et aussi il y a les réalisations techniques et tous les problèmes techniques qui ont été résolus par nos connaissances scientifiques. Le problème des égouts, des chauffages des villes, des maisons, de l'éclairage, des choses de ce genre, c'est grâce à nos connaissances scientifiques. Donc je ne crois pas que le prestige et l'autorité de la science soient usurpés. En ce sens, nous sommes bien d'accord. Maintenant, pour ce qui est de l'Église, il y a des controverses dans l'Église. Et d'ailleurs, Saint-Augustin a bien participé à ces controverses et d'interprétation et tout ça. Donc bien sûr, on est d'accord dans l'Église catholique sur certains textes, mais l'interprétation, qu'est-ce que c'est que la Trinité, qu'est-ce que c'est que l'homme est créé à l'image de Dieu, etc. Là, il y a quand même des débats, donc c'est pas si clair que ça. Mais vous dites l'expérience Descartes, il était dualiste, Descartes. Il pensait qu'il y avait le corps qui était un mécanisme, et puis donc la substance étendue, et puis l'esprit. Okay, mais il y a une interaction entre le corps et l'esprit. Donc, s'il décide de lever le bras, voilà. Alors, Descartes disait, cette interaction se fait au niveau de la glande pinéale. Et alors, Descartes est allé en Hollande, là où il était bien tranquille, il a fait des expériences d'anatomie, et il était avec des espèces de bistouris, et il faisait la dissection, et il cherchait la glande pinéale. Et un jour, il a jeté ses instruments, et il a dit, ces instruments sont vraiment trop grossiers, ils ne permettent pas de trouver la glande, et pourtant elle existe. Donc, Descartes n'était pas vraiment, d'abord, il n'était pas un expérimentateur, très, très doué, quoiqu'il a quand même découvert en même temps que Snell les lois de la réfraction, à peu près en même temps. Et d'autre part, les lois fondamentales de la nature, pour lui, étaient des lois invariantes, c'était des invariantes qui étaient fondées sur l'immutabilité divine, qui étaient connues a priori, c'est-à-dire indépendamment de l'expérience. Et donc, en se basant sur des considérations théologiques, mais pas particulièrement, c'est le dieu des philosophes, c'est pas le dieu des chrétiens, sur des considérations théologiques, il a découvert quelque chose de très important pour la physique, à savoir la notion d'invariance, des quantités qui se conservent. Et il a pensé que c'était la quantité de mouvement à laquelle il a donné donc a priori, indépendamment d'expérience, il a découvert quelque chose qui est encore considéré comme tout à fait essentiel à à la physique. Spinoza non plus, n'avait pas l'expérience, l'empirie en très haute estime. Mais sinon, je suis d'accord avec vous que, effectivement, pour la science, et si la science a l'autorité qu'elle a et qu'elle mérite, c'est parce qu'elle rencontre, elle permet d'expliquer les phénomènes que l'on observe de façon précise avec des instruments qui fonctionnent de façon très contrôlée.
Je vous propose qu'on accepte ceci comme conclusion pour aujourd'hui. Et on dit encore merci à notre conférencier.